VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 11 janvier 2018, en direct de Washington, Idrissa Seloudia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
Décapitation d'un agent des renseignements dans le Kasaï, en République démocratique du Congo.
Au Gabon, les deux chambres du Parlement, réunies en congrès extraordinaire, adoptent un projet de loi controversé sur la révision de la Constitution.
Au Mali, déjà 4 candidats déclarés pour l'élection présidentielle prévue dans 7 mois.
Rapport final fort critique des observateurs de l'Union européenne sur le scrutin présidentiel de 2017 au Kenya.
Le président américain Donald Trump ouvert à d'éventuels pourparlers entre les États-Unis et la Corée du Nord.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, un agent des renseignements a été décapité dans le Kasaï dans la nuit de mardi à mercredi. Des miliciens opposés, dit-on, au pouvoir de Kinshasa sont pointés du doigt. Morgane Guiriec nous en dit plus.
Et d'après Jacob Pembe Longo, administrateur du territoire de Mweka, des miliciens armés de machettes et de fusils, portant des bandeaux rouges autour de leur tête, sont entrés dans le village de Kalamba aux environs de 21h. Ils ont attaqué la maison d'un agent de l'ANR. Ils l'ont tué avant d'incendier sa maison. La victime a été décapitée et son corps jeté dans le feu. D'après ce responsable local, l'épouse de la victime a été enlevée pendant quelques heures avant d'être relâchée. Un pasteur a été kidnappé. L'agent de l'ANR est la 4e victime en un mois de ce type d'attaque ciblant des représentants des services de sécurité, affirme l'administrateur qui dénonce un plan de déstabilisation sans préciser qui serait derrière. Les provinces du Kasaï se sont embrasées en septembre 2016 après la mort d'un chef coutumier, Kamuina Nsapu, dans un assaut des forces de sécurité. L'Église catholique fait état de 4000 morts.
La Belgique a annoncé hier une révision fondamentale de sa coopération avec les autorités congolaises jusqu'à l'organisation d'élections crédibles. Elle a de nouveau condamné les violences du 31 décembre à Kinshasa qui ont fait au moins 5 morts selon les Nations Unies et le Vatican, aucun d'après les autorités. Bruxelles affectera les moyens libérés au profit de l'aide humanitaire et d'autres initiatives répondant aux besoins les plus pressants de la population, lit-on dans un communiqué des autorités belges qui parle de davantage de coopération avec des organisations non gouvernementales.
Au Gabon, les deux chambres parlementaires réunies en congrès extraordinaire ont adopté hier un projet de loi controversé sur la révision de la Constitution, a appris l'AFP de sources concordantes. Ce projet, dont le contenu et les amendements n'ont pas été rendus publics, doit encore être examiné par la Cour constitutionnelle. L'Assemblée nationale et le Sénat sont composés en quasi-totalité de membres du Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir. L'opposition dénonce depuis plusieurs mois une révision constitutionnelle qu'elle qualifie de monarchisation du pouvoir.
La présidentielle au Mali, c'est dans 7 mois et les annonces de candidature se multiplient. Deux hauts fonctionnaires internationaux, Modibo Kone, un ancien de la Banque Ouest-Africaine de Développement, et Amadou Touré, l'ex-patron de l'Union Internationale des Télécommunications, sont sur la piste de départ, Abdourahmane Dia.
Après celle du maire de Sikasso, Khalifa Sanogo, et de l'ancien ministre, le général Moussa Sinko Koulibaly, ces nouvelles candidatures portent à 4 le nombre de prétendants à la succession du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui n'a toujours pas dit s'il se représenterait en juillet ou pas. Modibo Kone, 57 ans, spécialiste financier et expert en développement rural, a affirmé qu'il se présentait pour notamment lutter contre la mauvaise gouvernance. « Notre pays a ce qu'il faut pour réussir », a-t-il assuré. Quant à Mamadou Touré, 64 ans, ancien secrétaire général de l'UIT et actuel directeur exécutif de Smart Africa, le Mali va tout droit dans le mur, il a besoin de 100 nouveaux. « Le Mali peut s'en sortir et je veux y contribuer », a-t-il expliqué. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a rassuré, lors de son discours de nouvel an, que tous les scrutins seront organisés à la date prévue.
Le groupe islamiste Boko Haram a fait 141 victimes civiles, tuées, enlevées ou blessées en 2017 dans le sud-est du Niger, proche du Nigeria. Ce bilan a été donné hier par l'ONU dans un rapport publié à Niamey. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
141 civils ont été blessés, tués et enlevés en 2017, contre 227 en 2016 et 214 en 2015, d'après le Bureau de coordination des affaires humanitaires. Toutefois, l'agence onusienne ne fournit pas de bilan des militaires nigériens tués par Boko Haram. Les attaques les plus meurtrières ont été enregistrées dans des villages à la lisière avec le Nigeria et dans des localités riveraines du lac Tchad. Niamey continue d'encourager les combattants nigériens du groupe islamiste à se repentir et à se rendre. La semaine dernière, les autorités de la région de Diffa ont retardé le délai de repentance pour ces combattants, initialement fixé au 31 décembre 2017. Mahamoudou Lawale Dan Dano, gouverneur de Diffa, a souligné que le nombre de repentis est passé de 166 à 177 depuis la mi-octobre. Pour Niamey, ces repentances sont le résultat d'un affaiblissement de Boko Haram grâce aux actions de la force régionale créée en 2015 par le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun.
Les observateurs de l'Union européenne ont publié hier à Bruxelles un rapport final fort critique sur le scrutin présidentiel kényan de 2017 et qui accuse notamment les responsables politiques d'avoir nui au processus électoral. Ce rapport a provoqué la colère de Nairobi, John Linden.
Les élections générales de 2017 ont été caractérisées par une course à la présidentielle longue et dommageable qui a coûté des vies et a affaibli le fonctionnement démocratique du Kenya, affirme dans ce rapport la mission d'observation de l'Union européenne. Elle ajoute que le processus électoral a été endommagé par les leaders politiques qui ont attaqué des institutions indépendantes et par un manque de dialogue entre les deux camps. Un rapport très critique qui a tout de suite provoqué une vive réaction des autorités kényanes. Pour l'ambassadeur du Kenya, ce rapport dénote un comportement dédaigneux et condescendant. Le président Uhuru Kenyatta a été réélu à l'issue du scrutin du 26 octobre, boycotté par l'opposition, au terme d'un feuilleton électoral à plusieurs rebondissements. Sa victoire lors d'un premier scrutin le 8 août auquel l'opposition avait participé a été invalidée en justice pour irrégularité dans la transmission des résultats. L'opposant Raila Odinga avait refusé de participer au second tour.
La tension ne diminue pas en Tunisie où de nouveaux heurts ont éclaté hier soir entre manifestants et policiers dans plusieurs villes et ce au troisième jour d'une contestation alimentée par des mesures d'austérité. Depuis lundi, en effet, des troubles sociaux ont été enregistrés dans le pays, 7 ans après le début du printemps arabe avec une révolution qui réclamait travail et dignité et avait fait tomber le dictateur Zine al-Abidine Ben Ali.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump s'est dit ouvert à des pourparlers entre les États-Unis et la Corée du Nord au moment approprié si les circonstances s'y prêtent. Il l'a dit hier dans une conversation téléphonique avec son homologue sud-coréen Moon Jae-in. Selon la Maison-Blanche, les deux présidents ont souligné la nécessité de poursuivre la campagne de pression maximale sur Pyongyang. De son côté, le bureau du président sud-coréen, dont le pays avait eu la veille son premier face-à-face depuis 2 ans avec la Corée du Nord, a déclaré que M. Trump a accepté qu'il n'y aurait pas d'action militaire durant le dialogue intercoréen.
Et concernant l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016, le président Trump estime qu'il semble improbable qu'il ait un entretien avec le procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur des allégations de liens entre la campagne de M. Trump et la Russie. Le président américain a répété hier, dans une conférence de presse à la Maison-Blanche, qu'il n'y a pas eu collusion entre les Républicains et Moscou, mais plutôt qu'il y en a eu entre les démocrates et les Russes.
D'autre part, le président a fustigé la décision d'un juge de Californie qui a empêché temporairement son administration de mettre fin au programme qui protège contre une éventuelle expulsion de centaines de milliers d'immigrés entrés illégalement dans le pays, très jeunes, en compagnie de leurs parents. Le juge William Alsop de San Francisco a ordonné au gouvernement de remettre en application intégralement ce programme sur l'ensemble du territoire américain en attendant un jugement final ou une nouvelle décision. Pour M. Trump, le juge Alsop vient de démontrer ainsi le caractère injuste et défectueux du système judiciaire américain.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Au Cameroun, la caisse autonome d'amortissement a besoin de 560 milliards de francs CFA pour apurer la dette intérieure en 2018. Le président Paul Biya s'est engagé de mobiliser au maximum les recettes fiscalo-douanières pour disposer d'assez de fonds. Sinon, cette caisse autonome devrait recourir aux emprunts bancaires. En Égypte, le gouvernement injecte 5 milliards de dollars d'investissement pour développer le Sinaï dans les trois prochaines années. La partie du nord du Sinaï est sous-développée et manque d'infrastructures de base et d'emploi. La côte du sud de la péninsule est parsemée de stations touristiques de la mer Rouge. Le président Abdel Fattah al-Sissi a confié au ministère du Logement et de l'Ingénierie un projet national d'urbanisme complet. Le taux d'inflation de la Tunisie a dépassé la barre des 6% en 2017. Il a engendré la flambée des prix. L'Institut national des statistiques estime que 2018 sera pire à cause de la politique gouvernementale de majoration de la TVA qui aura un impact sur les prix de certains produits de grande consommation.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Voilà, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le joueur africain le plus cher de l'histoire du football est congolais.
Et oui, il s'appelle Cédric Bakambu. Il évoluera avec le Beijing Guoan, où il s'est engagé pour 4 saisons. Pour acquérir l'attaquant de Villarreal, on savait déjà que le club chinois avait levé sa clause libératoire de 40 millions d'euros. Mais en raison de nouvelles taxes imposées par la Chine, le club a déboursé au total 74 millions d'euros pour faire de l'international congolais de 26 ans le joueur africain le plus cher de l'histoire. Il va bénéficier d'un salaire annuel brut, tenez-vous bien, de 18 millions d'euros.
Une femme à la tête du football malien.
Eh oui, un comité de normalisation vient d'être installé à la tête de la Fédération malienne de football. Hier, la mission conjointe FIFA-CAF a nommé Dao Fatoumata Guindo, présidente du CONOR. L'ancienne ministre des Relations avec les institutions sous l'ère ATT devra travailler pour l'élection du nouveau comité exécutif de la FEMAFOOT au plus tard le 30 avril. On écoute la présidente du comité de normalisation de la FEMAFOOT.
La crise n'est pas sur le terrain, la crise est ailleurs. Je n'ai pas besoin d'être connu sur le terrain pour pouvoir gérer cette crise. Je fais confiance à ceux qui nous ont porté cette confiance-là et je fais confiance aussi à l'équipe que nous avons. Et ensemble, je pense que nous sommes tous fatigués. Tous les Maliens sont fatigués, tous les supporters sont fatigués et j'espère que nous allons avoir le soutien de tout le monde pour qu'ensemble, nous puissions enfin finir cette crise qui dure plus de 3 ans.
Dao Fatoumata Guindo au micro VOA Afrique de Siaka Traoré.
Chelsea et Arsenal se neutralisent.
Chelsea et Arsenal se sont neutralisés en effet lors de la demi-finale aller de la League Cup, la Coupe de la Ligue en Angleterre, 0-0. Tout se jouera donc à l'Emirates Stadium le 24 janvier prochain. On rappelle qu'entre ces deux formations, en 4 matchs cette saison, il n'y a eu pour le moment que des matchs nuls. Un lors du Community Shield, 2 en championnat et 1 en coupe.
Zidane prolonge son contrat avec le Real Madrid.
L'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, dont l'équipe semble traverser une mauvaise passe, a confirmé hier soir avoir signé sa prolongation de contrat jusqu'en 2020 avec le club merengue. Déclaration du technicien français en conférence de presse après un match nul et une qualification en Coupe du Roi contre le modeste club de Numancia. Match nul, 2 buts partout. Allez Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Dallas et Charlotte 115 à 111, Miami et Indiana 114 à 106, Utah et Washington 107 à 104, Detroit et Brooklyn 114 à 80, Chicago et New York 122 à 119, Portland et Houston 112-121, New Orleans et Memphis 102-105, Orlando et Milwaukee 103-110, Oklahoma City et Minnesota 88-104, Atlanta et Denver 110 à 97.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, les syndicats du secteur de l'éducation sont en colère. Les enseignants sont en grève de 72 heures pour exiger du gouvernement l'examen sérieux de leurs conditions de vie et de travail, ainsi que le respect pour leur profession. Le point avec notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Ils sont plusieurs milliers de travailleurs de l'éducation à battre le pavé à l'appel de leur syndicat à Ouagadougou mais aussi dans les provinces depuis deux jours pour exprimer leur ras-le-bol au gouvernement. Une marche a notamment ponctué la mobilisation d'hier dans la capitale avant le ralliement à la Bourse du Travail au centre-ville. Les travailleurs n'ont pas mâché leurs mots.
Quand vous allez dans l'administration scolaire, on manque effectivement du nécessaire pour travailler.
Ce que nous revendiquons là, ce n'est pas trop. C'est pour l'amélioration des conditions de vie de l'enseignant. Donc il faut que l'État ouvre ses yeux pour pouvoir nous satisfaire.
Nous sommes un peu négligés, donc nous sommes en train de lutter pour la révalorisation de notre fonction éducative.
Des revendications justes sur lesquelles le gouvernement est invité à répondre, conseille le coordonnateur des coordinations du syndicat de l'enseignement, Wendiam Zongo.
Nous voulons que l'État essaie de revoir les rémunérations salariales des personnels de l'éducation et de la recherche. L'accès à l'éducation pour que tous les enfants burkinabés puissent aller à l'école. Alors, quand nous prenons par exemple l'amélioration des conditions de travail, nous travaillons dans des conditions difficiles. Prenons par exemple la cantine scolaire. Quand ça arrive dans les écoles, c'est pour 2 mois. Alors que l'école dure 9 mois. Nous avons juste là récusé notre ministre d'être notre médiateur parce qu'il ne prend pas au sérieux nos revendications. Il faut que nous obtenions un protocole d'accord signé des deux parties qui nous donne une preuve et nous pouvons présenter ça à nos camarades, à nos militants. Et en ce moment maintenant, nous pouvons voir la conduite à tenir.
Lors d'une conférence de presse organisée dans la foulée, le Premier ministre s'est dit ouvert à toute discussion, facteur d'amélioration des conditions de travail dans la limite de la soutenabilité des finances publiques. Il faut un sursaut patriotique de l'ensemble des Burkinabés, appelé de Paul Kabatieba.
Aujourd'hui, je me rends compte qu'au fur et à mesure que les problèmes se posent, et ça amène d'autres difficultés. C'est pourquoi nous tirons la leçon de cette situation et nous essayons donc de trouver une solution plus globale. Le gouvernement est déterminé à trouver une solution aux revendications de la coordination des syndicats du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Lorsque vous prenez une décision pour satisfaire les revendications d'un syndicat, il faut s'assurer que tout cela est cohérent avec la soutenabilité financière du pays. Et j'en appelle donc au salutaire sursaut patriotique de tous. Pour sauver l'année scolaire.
Les 16 syndicats de l'enseignement ont reçu un soutien de taille, celui du président de l'unité d'action syndicale. Bassolma Bassier a indiqué que l'exécutif ferait mieux de se pencher sérieusement sur la situation actuelle. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Cameroun, au moins 43 personnes sont mortes en 2017 sur des sites miniers exploités puis abandonnés par des sociétés minières dans l'est du pays. C'est ce qu'a révélé un rapport de l'ONG Forêt et Développement Rural. L'ONG a lancé depuis 2 ans une campagne pour la restauration des sites miniers creusés et abandonnés par les exploitants, mais rien n'est encore fait d'après elle. Yacouba Ouedraogo a joint Justin Tchekwa, chef de projet à l'ONG Forêt et Développement Rural.
Généralement, les entreprises minières qui exercent dans l'activité exploitation minière semi-mécanisée, quand elles finissent d'exploiter, elles ne rebouchent pas les trous. Et les populations riveraines vont dans ces trous pour extraire le reste des graviers. Étant donné que les sites ne sont pas sécurisés, ça entraîne généralement des éboulements de terrain qui rebouchent ces personnes dans les trous. Le deuxième cas, il y a parfois les gens du passage sur les routes en allant dans les activités, parfois glissent et retrouvent dans les trous.
Est-ce qu'il y a une loi qui encadre cette réhabilitation des sites miniers après exploitation?
Normalement, les entreprises qui exploitent ont l'obligation de reboucher les trous et stabiliser le milieu à la fin de l'exploitation. Ce qu'on constate sur le terrain, la majorité des entreprises ne referment pas les trous. Ce qui fait que viennent ruer les populations dans ces chantiers parce que la ressource est maintenant plus facile à exploiter. Avant, les communautés avaient de la peine parce qu'ils allaient utiliser les roues, les pelles et les pieux pour creuser les trous. Donc, le fait que les entreprises laissent les trous béants, ça facilite l'accès à la ressource. Ce qui fait que même les enfants se retrouvent dans ces trous abandonnés.
Qu'est-ce qui est fait pour amener les entreprises qui exploitent ces sites miniers-là à réhabiliter les sites et donc à reboucher les trous après exploitation?
Il y a deux ministères qui sont chargés de suivre la réglementation en matière d'exploitation des ressources naturelles, de réhabilitation des sites. Il y a d'abord le ministère de l'Environnement à qui la responsabilité incombe de veiller à ce que les entreprises rebouchent les trous. Et maintenant, le ministère des Mines est chargé de veiller à ce que l'exploitation artisanale se déroule selon le cahier de charges qui était attribué à l'entreprise. On constate sur le terrain que les administrations qui sont chargées de faire rebouger le trou n'ont franchement pas de force parce que les entreprises qui sont sur le terrain sont plus souvent soutenues par des autres personnalités du pays. Ce qui fait que les actions vraiment de coexistence avec ces entreprises pour reverser les trous n'ont pas été faites. Il y a beaucoup de trafic d'influence dans ce secteur qui ne permet pas déjà à l'administration au niveau local de faire sérénement son travail.
Mais en attendant, il faut peut-être aussi sensibiliser pour que ces personnes ne se retrouvent pas dans ces sites qui deviennent des tombes à ciel ouvert.
Il y a un niveau de sensibilisation que nous faisons, qu'elles prennent des mesures minimum de sécurité, mais nous sommes dans un contexte où les communautés vivent exclusivement de l'activité minière. Il faudrait que l'administration prenne des mesures fortes, parce que si les trous étaient rebouchés, la population ne serait pas en train d'aller dans ces trous. Donc le travail de sensibilisation qu'on fait, c'est vrai, c'est pour qu'ils prennent conscience, mais il serait difficile pour une communauté qui ne vit exclusivement de l'exploitation minière et qui trouve qu'il y a un poids payant de ne pas y aller. C'est ça la grosse difficulté.
C'était Justin Tchekois de l'ONG Forêt et Développement Rural, joint à Yaoundé.
Jacques Aristide avec vous. Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur la crise financière que traverse le Tchad, contraint de réduire à nouveau les salaires des fonctionnaires. D'autres pays africains se voient également obligés à prendre des mesures d'austérité pour sortir du marasme économique et satisfaire les bailleurs de fonds. Mais les fonctionnaires doivent-ils en faire les frais? Les gouvernements africains comme celui du Tchad n'ont-ils d'autre choix que d'augmenter les prix et de diminuer les salaires? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Depuis 2014, le tourisme ivoirien se porte bien. Le pays se repositionne comme la troisième destination principale du tourisme d'affaires en Afrique, après le Nigeria et le Maroc. Et le pays des éléphants compte bien aller plus loin. 3 000 milliards de francs CFA sont investis pour, entre autres, la réalisation d'infrastructures touristiques. Pour un éclairage, Ekia Badou a joint à Abidjan Siandou Fofana, ministre du Tourisme de la Côte d'Ivoire.
Ce financement de 3 000 milliards consiste à financer toute la stratégie de développement touristique qui s'étend de l'horizon 2017 à 2025. L'horizon sur lequel nous devrons être en mesure de réaliser les grands projets qui vont changer notre infrastructure, de quoi revaloriser le potentiel touristique de notre pays qui est innombrable et très, très varié.
Là, il y a des zones en Côte d'Ivoire qui ne sont pas forcément exploitées, notamment Sassandra, Monogaga. Beaucoup de personnes parlent de beaux lieux, mais qui sont pas faciles d'accès. Combien de temps vous imaginez pouvoir reconstruire ces routes pour pouvoir atteindre ces villes?
Ayant été dans les infrastructures routières, je peux vous assurer que l'horizon qui a été défini pour la réalisation de ces différents projets des zones que vous venez de citer dans la région du sud-ouest du pays, les projets routiers devraient être achevés sur le même horizon, étant entendu que ces projets sont appelé à être réalisé dans un délai de 2 à 3 ans pour une meilleure connectivité routière au niveau de la Côte d'Ivoire.
Même si vous arrivez à avoir ces bonnes structures, est-ce que la sécurité sera garantie? Parce que beaucoup se plaignent des coupeurs de route.
De concert avec le ministère en charge de la sécurité et ceux de la défense, nous avions convenu d'instituer ce qu'on appelle la police touristique. Cette police qui va veiller à accompagner les convois des touristes et à veiller à exercer les mesures de sécurité sur l'ensemble des sites touristiques.
Vous êtes troisième en Côte d'Ivoire par rapport au tourisme d'affaires. Jusqu'où voulez-vous aller pour améliorer le tourisme?
Les chiffres qui nous positionnent en troisième position ne sont pas totalement très loin des chiffres réalisés par le Ghana. La venue des plus grandes marques et les marques de luxe tels que Four Seasons, Ritz-Carlton, Kempinski et Sheraton, ainsi que Mövenpick, permettront de combler le gap et d'avoir doublé nos capacités en matière d'offre hôtelière. Nous avons aussi à combler le retard de concert avec les autres entités ministérielles pour avoir une foire internationale avec un parc d'exposition et des conférences centers.
Joint à Abidjan, M. Siandou Fofana, ministre du Tourisme de la Côte d'Ivoire.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Publication par l'ONG Porte Ouverte de son index mondial de persécution des chrétiens dans le monde. Plus de 3000 chrétiens, dont deux tiers au Nigeria, ont été tués dans le monde entre novembre 2016 et octobre 2017 pour des raisons liées à leurs croyances. La Corée du Nord figure pour la 17e fois d'affilée en tête de cet index, suivie par l'Afghanistan et la Somalie. Pour davantage de détails, Claire Morin-Gibourg a joint le directeur de l'ONG Portes Ouvertes, Michel Varton.
Pour la cinquième année de suite, nous voyons la pression contre l'Église est de plus importante, à la fois au niveau de la violence, mais aussi au niveau de la pression quotidienne. 215 millions de chrétiens aujourd'hui dans le monde vivent une persécution forte. Ça veut dire à peu près un chrétien sur 12 dans notre monde vit dans une situation de persécution intense.
Quels sont les pays où cette situation, où cette pression, où ces persécutions sont le plus importantes?
Alors, en haut de la liste, il y a la Corée du Nord. Pour la 17e année de suite, la Corée du Nord est l'année où c'est le plus difficile de vivre en tant que chrétien. Mais juste après, vraiment à juste un point, il y a l'Afghanistan et ensuite la Somalie. Donc ce sont les trois pays où aujourd'hui, par exemple, si on découvre que vous êtes chrétien, vous risquez fort d'être mis à mort. En Corée du Nord, ça veut dire être envoyé dans un camp de mort et vos proches vont aussi disparaître dans un camp de concentration. Pour la Somalie et l'Afghanistan, très souvent, la victime, la personne est tuée, considérée comme étant un fou. C'est une honte pour la tribu, pour le clan, et la personne est mise à mort.
Quels sont les autres pays africains dans lesquels les persécutions contre les chrétiens sont importantes?
On peut dire que le Nigeria, c'est le pays où il y a le plus de violence, le plus de morts. Cette année, 2000 personnes au Nigeria ont perdu leur vie. Mais d'autres pays aussi, par exemple le Cameroun, où suite au débordement de Boko Haram, il y a eu une centaine de morts cette année. On peut parler aussi du Kenya. Là, le problème vient des Shababs et ils font des atrocités. Entre autres, ils tuent les hommes. Il y a eu des cas où on arrête des bus et on demande aux passagers de descendre. Et puis on demande aux gens, est-ce que vous êtes chrétien ou musulman? Et s'ils ne veulent pas réciter le Sharada, donc ils sont des chrétiens, et on les tue sur le champ. Centrafrique, où malheureusement il y a une recrudescence de violence, c'est les anciens de Seleka qui s'est divisé en petits groupes. De nouveau, ces groupes islamistes Seleka visent les chrétiens, les pasteurs, les églises. Donc vraiment, l'Afrique, en fait, c'est le continent où il y a eu le plus de morts cette année. Nous avons dans tout le monde entier enregistré à peu près 3000 décès et 90% c'est en Afrique.
Eh bien, c'était Michel Varton, directeur de l'ONG Portes Ouvertes.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. À très vite, sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.